A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Marie-Hélène Digny, une habitante de Créteil âgée d'une cinquantaine d'années, coach d'entreprise, a failli mourir le 24 juillet dernier. Deux hommes armés ont été interpellés devant chez elle alors qu'ils se préparaient à la tuer. Agents de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, ils croyaient agir dans le cadre d'une mission ultra secrète pour l'État français. Cet épisode de Code Source est raconté par Timothée Boutry. Timothée Boutry, vous avez 42 ans, vous couvrez les faits divers aux Parisiens depuis 17 ans. Est-ce que vous aviez déjà vu une histoire pareille ?
J'ai déjà couvert beaucoup d'histoires étonnantes, extravagantes, mystérieuses. Mais là, il y a vraiment un casting étonnant, un projet étonnant et c'est vrai, avec des développements encore plus surprenants. Donc c'est vraiment une histoire en norme, assez singulière et aussi inquiétante.
Le vendredi 24 juillet, à Créteil, dans le Val-de-Marne, le matin, un homme qui amène son fils à l'école est intrigué par une voiture.
Oui, dans cette voiture, il y a deux hommes. Il constate qu'ils portent des gants. On est en plein mois de juillet, il fait chaud et ça l'intrigue. Alors il se dit, tiens, c'est bizarre. Et donc, il appelle la police.
Arrive une équipe de la BAC, la brigade anticriminalité de Créteil. Les policiers contrôlent cette voiture, une Clio noire.
En fouillant la voiture, ils trouvent un sac posé au pied du siège passager. Et dans ce sac, il y a une arme avec une balle qui est chambrée, donc prête à tirer. Donc manifestement, on est face à un problème pour la police.
Ils trouvent deux couteaux de l'armée et un silencieux pour leur pistolet très artisanal.
Fabriqué à partir d'emballages de compote de pommes souple d'une célèbre marque. Et il constate aussi que les deux hommes ont du coton dans les oreilles en guise de bouchons d'oreilles.
Cette voiture est une voiture volée.
Oui, elle est maquillée de manière assez grossière. On voit qu'il y a une plaque qui a été posée sur la plaque originelle, mais c'est pas vraiment raccord et très très vite on voit que c'est une fausse plaque.
Qui sont les deux occupants de la voiture ?
D'emblée, les deux hommes expliquent qu'ils sont militaires et qu'ils sont affectés à la DGSE, c'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, c'est-à-dire les services secrets, très précisément, donc ils sont compétents en dehors du territoire national, et les services intérieurs DGSI, ce sont des policiers, et la DGSE, ce sont des militaires.
Les deux hommes sont interpellés.
Évidemment, ils sont dans un véhicule volé, avec une arme prête à tirer. Légitimement, les policiers les embarquent au commissariat.
Que se passe-t-il ensuite ?
Les policiers de la PJ vont confirmer qu'ils sont effectivement militaires, effectivement attachés à la DGSE. Et là, c'est un nouveau service enquêteur qui va être saisi. Il s'agit de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris.
Et très tôt, l'un des deux se confie aux policiers.
Oui, en fait, l'un des deux militaires se confie pendant son transfert entre la PJ et la CRIM. Et il leur explique « Je suis au service de l'État dans le cadre d'une mission homo, c'est-à-dire une mission homicide. Et nous sommes en mission et nous sommes là pour exécuter quelqu'un. »
Cet homme se surnomme Dagomar. Ils ont tous les deux des noms de code.
Tous les militaires ont un pseudonyme. Et le sien, c'est Dagomar. Et c'est comme ça qu'il est appelé sur sa base, en fait.
Et l'autre est surnommé Adélard. Est-ce que Dagomar dit quelle était leur cible ?
Oui, finalement, Dagomar consent à s'expliquer et à détailler la cible, qui n'est autre qu'une femme qui s'appelle Marie-Hélène Digny, qui habite effectivement à Créteil, juste devant l'endroit où on les a arrêtés. Cette femme est spécialiste du coaching en entreprise. Elle a monté une entreprise assez prospère. Elle fait également un peu d'hypnose. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a réussi dans son domaine professionnel.
Timothée Boutry, pendant sa garde à vue, Dagomar explique qu'avec son acolyte Adélard, ils ont été recrutés pour cette opération par un certain Sébastien.
Alors Sébastien, c'est un professionnel de la sécurité privée, plutôt profil détective privé. En tout cas, il est pas du tout fonctionnaire. Son métier jusque-là, c'était la filature de mari infidèle ou de femme infidèle, ce genre de choses. Et par un mécanisme qu'on va détailler, il est arrivé à rentrer en contact avec ces deux hommes et les recruter pour cette mission en prétendant agir lui aussi au nom de l'État.
Cet homme présenté comme le recruteur, Sébastien, est interpellé. Deux jours plus tard, que dit-il aux enquêteurs ?
Lui explique qu'il est là pour aussi accomplir une mission officieuse, mais pour le compte de la DGSE, et que c'est pour ça qu'il a pris attache avec les deux hommes, et qu'il s'agit d'éliminer cette femme pour l'État français, et qu'ils sont là pour rendre service à la France.
Et Sébastien raconte qu'il n'a fait qu'obéir finalement un commanditaire, un donneur d'ordre. Il explique avoir été contacté par ce commanditaire en mai 2020.
Sébastien dit qu'il a reçu un courrier d'un homme qui a voulu le rencontrer. Ils se sont rencontrés une nuit vers 2h du matin sous un pont, sous le périphérique, et qu'il a vu arriver un homme avec un léger embonpoint, un accent des pays de l'Est, et il lui a alors remis un dossier avec une cible, donc Marie-Hélène Dini. Il dit que c'est cet homme-là qui lui a demandé de s'en prendre à Marie-Hélène Dini.
Cet homme, est-ce qu'il connaît son identité ?
On peut imaginer qu'il sait qui c'est, mais en tout cas, il ne le dit pas aux enquêteurs dans un premier temps.
Pendant leur enquête, les policiers découvrent que Dagomar et Adélard, les deux hommes de main, ont envisagé plusieurs façons de tuer la coach d'entreprise Marie-Hélène Dini.
Oui, on va retrouver des notes manuscrites. L'idée était de faire croire un accident ou un faux suicide. Ils ont imaginé de faire sauter la voiture ou alors de l'empoisonner. Et on va voir qu'il y a des recherches sur le laurier rose, une plante qui... exploité d'une certaine manière, peut servir de poison. Donc, ouais, il y a eu plusieurs scénarios qui ont été envisagés et manifestement, celui qui avait été retenu, c'était celui d'une exécution à la sortie de chez elle un matin.
Pourquoi il voulait s'en prendre à elle ?
On leur a dit que cette femme était au service d'une puissance étrangère et que donc elle faisait du tort à la France et donc que les services, dans le cadre de cette mission Homo, souhaitaient la supprimer.
Il croyait qu'elle travaillait pour le Mossad, les services secrets israéliens.
En tout cas, c'est ce qu'on leur a dit. Je ne sais pas s'ils le croyaient vraiment, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté et c'est comme ça qu'ils le retranscrivent.
À chaque nouvelle arrestation, ça ravive mes peurs, évidemment, parce que je me dis, mais combien de personnes et qui a intérêt à ce que je disparaisse ?
Cette femme, Marie-Hélène Dini, est sous le choc. Elle raconte aux policiers qu'elle avait déjà été victime d'une agression juste devant chez elle, 9 mois plus tôt, en 2019. Est-ce qu'elle sait qui peut lui en vouloir ?
Déjà, elle fait le lien entre les deux agressions, puisqu'elle constate que lors de cette première agression, il y avait une Clio noire. Alors là, à nouveau, il y a une Clio noire. Donc il y a deux personnes qui sont arrivées vers elle, qui l'ont molestée, qui lui ont arraché son sac et qui lui ont dit « c'est un avertissement, t'arrêtes la prochaine fois, on se reprendra encore à toi, voilà ». C'est sans doute peut-être une histoire de jalousie professionnelle. En tout cas, c'est la seule piste qu'elle imagine. Elle ne voit pas de conflit privé. Elle se dit ben, peut-être des concurrents jaloux. Et le fait est qu'elle avait voulu créer un syndicat du coaching et que peut-être elle s'est créée des inimitiés. En tout cas, c'est ce qu'elle avance aux enquêteurs.
Timothée Boutry, avec Jean-Michel Décugis et Jérémy Famelet, vous avez d'abord révélé cette affaire dès le 4 août, avant de signer un papier plus long le 27 septembre. À ce moment-là, vous avez donc des agents de la DGSE qui veulent éliminer une coach d'entreprise hypnotiseuse installée à Créteil, avec un commanditaire très mystérieux, tout ça dans le cadre d'une opération clandestine de la République, selon les personnes qui ont été interpellées. Ça semble presque improbable, non ? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ?
Le scénario est incroyable, alléchant, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'éléments troublants et que, certes, les services sont capables de beaucoup de choses, mais sur le territoire national, c'est déjà plus surprenant. À la fois, on a des pros, mais un énorme amateurisme. Voilà, une voiture qui est très mal maquillée, des agents qui patientent au vu, au sud de tout le monde, en pleine rue, gantés, avec l'arme à peine cachée, un silencieux tellement artisanal qu'on se dit, bah, ça colle pas vraiment. Enfin, et c'est surprenant, et pourquoi vouloir s'en prendre à elle ? Ça paraît extravagant pour être crédible.
La DGSE apporte assez vite des précisions sur les deux hommes de main, Dagomar et Adélard. Que faisaient-ils pour la DGSE ?
Déjà, on confirme qu'ils sont bien militaires, qu'ils sont bien affectés à la DGSE, et ils ont un rôle, explique-t-on, plus subalterne, qui est un rôle de surveillance d'un camp dans le Loiret. Même s'ils sont rattachés effectivement à la direction des opérations de la DGSE, ce ne sont pas des agents de terrain qui ont déjà été satellisés à l'étranger pour une mission. Voilà. Mais c'est vraiment des agents de la DGSE, ça c'est indéniable.
Ils étaient bien notés par leur hiérarchie ?
Dagomar était plutôt bien noté au départ, bon élément, sérieux, mais c'est vrai que la dernière évaluation était beaucoup plus nuancée et notamment était soulignée son immaturité.
Et même si l'hypothèse d'une coach d'entreprise travaillant en fait en sous-main pour le Mossad, les services secrets israéliens, paraît saugrenue, la piste est creusée.
Oui, c'est normal, les enquêteurs doivent tout explorer. Alors déjà, elle explique qu'elle n'a aucun lien avec personne et que cette histoire est totalement incroyable, extravagante. Et les vérifications faites ne permettent pas du tout d'étayer cette piste.
Timothée Boutry, cette enquête s'accélère début 2021 grâce à l'audition de la compagne du recruteur des deux hommes de main, Sébastien.
Oui, parce que jusque-là, on avait à peu près le scénario, mais il nous manquait toute une partie, et notamment la plus importante, qui est le commanditaire. On sait que Sébastien passe le plat, si je puis dire. Il n'avait pas voulu révéler qui était cet homme qu'il avait soi-disant rencontré sous un pont, sous le périphérique. Et là, sa compagne est convoquée en tant que témoin, puis là, elle explique, elle donne des noms, et elle donne notamment le nom d'un certain Daniel, qui est un ancien commandant de la DCRI, et à partir de là, toute l'histoire va pouvoir s'écrire.
Ancien commandant des renseignements intérieurs, la DCRI devenue depuis la DGSI, quel rôle aurait joué ce Daniel ?
Il aurait joué un nouveau rôle d'intermédiaire en fait. C'est lui qui aurait contacté Sébastien pour le motiver et il lui a dit que c'était une mission d'État, une mission officielle et qu'il s'agissait donc d'éliminer cette femme pour le compte de la France.
Ce qui est faux donc, ce Daniel explique qu'il a volontairement trompé le recruteur Sébastien.
Voilà, mais lui-même n'est pas le commanditaire de cette tentative d'assassinat. Et il explique que le réel commanditaire, c'est un certain Jean-Luc, qui est lui-même spécialiste du coaching d'entreprise aussi. Voilà, un concurrent de Marie-Hélène Dini. Et donc, on est dans l'hypothèse d'une vengeance privée. Et donc, c'est ce Jean-Luc qui, mécontent de la volonté de Marie-Hélène Dini de créer un syndicat du coaching, avait imaginé cette idée folle de l'éliminer. Il en avait parlé à un de ses proches, qui en a parlé à Daniel, qui a recruté Sébastien. Et voilà, il y a toute une chaîne de commanditaires qui se dévoile.
D'un mot, Marie-Hélène Dini avait cité ce Jean-Luc au tout début de l'enquête.
Oui, oui, dès sa deuxième audition, quand on lui demande mais qui pourrait s'en prendre à vous, elle dit à part des concurrents jaloux, je vois pas. Et elle dit j'ai eu quelques problèmes avec telle société, et dont la société de ce Jean-Luc qu'elle cite nommément. Et elle pouvait évidemment pas imaginer que ça prendrait une telle tournure.
Comment le commanditaire présumé, Jean-Luc, a rencontré l'ancien commandant des renseignements intérieurs, Daniel ?
En fait, ils se connaissent parce qu'ils appartiennent à la même loge maçonnique dans l'Ouest parisien. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés en contact. Il y a eu un autre intermédiaire entre eux qui est lui aussi un membre de cette loge. Tout ça s'est créé au sein de cette loge avec des frères dévoyés qui ont en quelque sorte constitué une espèce d'officine d'exécution de contrats.
On se résume, pour cet ancien commandant des renseignements intérieurs, Daniel, le véritable commanditaire de cette tentative d'assassinat est un concurrent de Marie-Hélène Dini, un certain Jean-Luc, et l'assassinat a été conçu, préparé, entre membres de cette loge de franc-maçonnerie.
C'est ça, ça paraît totalement incroyable, mais en tout cas, c'est bien le scénario qui est avancé par Daniel, évidemment, qui va devoir être étayé, les autres protagonistes vont être entendus, ils vont contester ou confirmer. Bon voilà, on est au début de l'instruction. Mais en tout cas, on a un circuit qui se dégage, et ce qui est assez incroyable dans cette affaire, c'est le nombre d'intermédiaires, et qu'à aucun moment, personne ne va dire stop.
L'affaire ne s'arrête pas là. L'ancien commandant des renseignements intérieurs, Daniel, affirme que ce n'est pas la première fois qu'il est impliqué avec ses complices dans une affaire criminelle.
Daniel va dire, mais attendez, c'est pas la première fois qu'on s'en prend à quelqu'un. Il y a déjà un homme qui a été tué. Il accuse Sébastien d'avoir perpétré cet assassinat. Et il l'a exécuté et il l'a enterré dans une forêt. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve puisqu'il m'a envoyé une photo du corps au moment où il l'a enterré. Et il montre cette photo aux enquêteurs.
Qui est la victime ?
Cet homme, il s'appelle Laurent Pasquali et il avait disparu en novembre 2018. Il habitait à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. À l'époque, ses proches s'inquiètent, vont voir le commissariat local. Une enquête est ouverte par le parquet de Nanterre pour disparition inquiétante. Mais à ce moment-là, pas de nouvelles. Or, le 1er septembre 2019, à 500 km de là, en Haute-Loire, au nord du Puy-en-Velay, un promeneur trouve des ossements et un crâne dans une forêt. Et au bout d'un certain temps, les ossements vont être identifiés comme étant ceux de Laurent Pasquali, le disparu de Levallois-Perret. Et à partir de ce moment-là, donc, le parquet de Nanterre est avisé et ouvre une information judiciaire pour enlèvement, séquestration et suivi de mort. Donc en fait, depuis l'année dernière, le parquet de Nanterre cherche à savoir qui a tué Laurent Pasquali.
Qui est Laurent Pasquali?
Laurent Pasquali, c'est un passionné de sport automobile. C'est un pilote émérite, alors amateur, mais qui a couru les 24 heures du Mans, qui a fait le championnat de France GT avec Anthony Beltoise, qui est un pilote professionnel. Et il est très connu dans le monde des paddocks, il est sur les circuits, il est réputé bon vivant, sympathique, bout en train. Et c'est vrai que dans le monde du sport automobile, beaucoup de gens s'étaient émus de sa disparition en novembre 2018.
On sait pourquoi il a été tué?
L'enquête devra évidemment le confirmer, mais selon les premières déclarations de Daniel, cet ancien commandant des renseignements intérieurs, en fait c'est un de ses frères francs-maçons qui lui en voulait puisque Laurent Pasquali aurait eu une dette envers lui et la raison pour laquelle il aurait fait supprimer par ce mini-réseau qui s'était constitué, donc ce serait une histoire de dette d'argent.
Et pendant ses auditions, le retraité du renseignement, Daniel, évoque un troisième contrat d'assassinat visant cette fois un syndicaliste du département de l'Ain. Mais ce projet n'aurait pas abouti. Timothée Boutry, on le sait, les francs-maçons font souvent l'objet de fantasmes de la part d'une partie de la population, notamment des amateurs de théorie du complot. Du coup, quand vous apprenez tout ça, vous, est-ce que vous hésitez à publier l'information ?
Il n'y a pas d'hésitation, il ne s'agit pas de stigmatiser les francs-maçons. On est bien clair et c'est bien écrit qu'on parle de frères dévoyés qui ont rompu totalement avec la loi et encore plus avec les valeurs de la franc-maçonnerie qui sont évidemment pas celles-là. Ce n'est pas les francs-maçons qui sont responsables de cette tentative d'assassinat ou de ce premier contrat qui est exécuté. Ce sont des individus suspectés de faits gravissimes. C'est juste par ce biais-là qu'ils se sont rencontrés, c'est tout.
Merci Timothée Boutry, cette affaire est encore au stade de l'instruction. Dans ce dossier, personne n'a encore été condamné et tous les suspects dont on vient de parler sont présumés innocents. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Mona Delahaye, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application dédiée comme Apple Podcast ou Google Podcast par exemple.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.